Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, l'évangile d'aujourd'hui, associé à l'épître de Saint Paul, donne des avertissements extrêmement forts. On voit quelque chose de sidérant. Notre Seigneur Jésus-Christ qui pleure sur sa ville. Notre Seigneur Jésus-Christ qui pleure sur la ville de Jérusalem. Et tous les pères de l'Église interprètent de la même façon en expliquant que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, homme et Dieu, c'est tout ce qui va se passer, pleure à cause du péché des Juifs, péché déicide. Et il pleure non seulement à cause de ça, mais il sait aussi ce qui va se passer après. Toutes les prophéties que notre Seigneur Jésus-Christ va dévoiler aujourd'hui, cette ville de Jérusalem qui va être entourée d'attaquants qui vont être finalement complètement détruites, tout cela indique la destruction de la ville de Jérusalem. Vous savez que tous les pères de l'Église sont d'accord là-dessus, que pour punir le péché de déicide, Dieu a permis que la ville de Jérusalem soit complètement détruite par Titus. Et il faut voir ce que disent les historiens de l'époque, surtout un grand historien israélien juif en fait, qui s'appelait Joseph. Voir ce qu'il raconte sur la destruction de la ville de Jérusalem. Par Titus, donc ça a duré des mois et des mois et des mois et des mois de siège. Mes souvenirs sont exacts, je crois que ça a duré presque 4 mois de siège. Et les Juifs mouraient de faim. Et régulièrement, il y avait des Juifs qui quittaient la ville de nuit pour essayer de trouver quelque chose à manger. Et tous les jours, les soldats de Titus capturaient à peu près 500 Juifs qui se sauvaient. Et les 500 étaient crucifiés. Et lorsque la ville a finalement été conquise par Titus, il y a eu plus d'un million de morts. Et c'est Joseph qui dit qu'on vendait à l'époque un esclave pour 20 deniers. Au moment de la destruction de la ville de Jérusalem, on vendait 20 juifs pour un denier. Et toute la campagne environnante, dit Joseph, était parsemée de croix, des juifs crucifiés. C'est pas pour rien qu'ils ont été crucifiés. Justement, pour bien montrer le lien entre ce châtiment et le crime des Juifs qui ont crucifié notre Seigneur Jésus-Christ. Et évidemment, les pères de l'Église font une autre allusion qui est importante pour nous. Encore une fois, il ne faut pas toujours tout mettre sur le dos des Juifs et se rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ parle aussi pour nous. Et quand notre Seigneur Jésus-Christ pleure sur la ville de Jérusalem, il faut se demander si notre Seigneur Jésus-Christ ne pleure pas sur un autre lieu. Et ce lieu sur lequel notre Seigneur Jésus-Christ pleure aussi, c'est notre âme. Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ, du haut du ciel, qui voit tout, qui sait tout, qui connaît le futur, s'il regardait mon âme actuellement, est-ce qu'il pleurerait de tristesse ou est-ce qu'au contraire, il se réjouirait d'une grande joie de voir l'état de mon âme? La question qu'il faut se poser. C'est comme ça qu'il faut interpréter l'Évangile. Est-ce que mon âme va résister aux attaques? Parce que si Titus a entouré Jérusalem, les fortifications pour détruire complètement la ville, il ne faut pas s'étonner si le démon, les ennemis de nos âmes, cherchent justement à entourer complètement nos âmes de fortifications aussi pour détruire l'âme. Et il va y avoir un combat terrible. Les Juifs ont perdu ce combat, et moi, est-ce que je peux gagner ce combat avec la grâce du bon Dieu? Là, c'est là où il faut se poser la question, dans quel état est mon âme? Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ, si on regarde aujourd'hui l'intérieur de mon âme, mon âme est comme un petit miroir qui reflète quelque chose. Qu'est-ce que reflète actuellement mon âme? Est-ce que mon âme reflète la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ? Donc l'étincelle est dans mon âme, en quelque sorte, par le fait que je suis enfant de Dieu par le baptême. Ou est-ce qu'au contraire, mon âme est toute noircie par le péché, toute noircie par le fait que le démon la possède lui-même? Il y a d'autres points dans l'Évangile qui expliquent la même chose, que notre Seigneur Jésus-Christ dit qu'on a transformé une maison de prière en une caverne de voleurs, dit-il. C'est très fort comme terme. Mon église, mon temple était une maison de prière, vous en avez fait une caverne de voleurs. Notre Seigneur Jésus-Christ qui accuse donc les Juifs d'avoir transformé le temple en une caverne de voleurs, tel point que notre Seigneur, le doux notre Seigneur Jésus-Christ, va prendre un fouet de corde et va chasser tout le monde. Va chasser les vendeurs qui étaient dans le temple, un cours du temple et qui faisaient des opérations financières pour vendre tous les produits qui allaient être utilisés pour le sacrifice. Et les pères de l'Église font remarquer quelque chose de très intéressant. Ils disent, notre Seigneur Jésus-Christ prend un fouet de corde, se met dans une forte colère, colère divine, pour chasser des gens qui vendaient des choses qui étaient légitimes. Puisque le temple était le lieu de sacrifice, donc il fallait bien que les gens qui venaient parfois très loin pour participer au sacrifice prévu par la loi ancienne puissent acheter les bœufs, les taureaux, les boucs, les brebis qui étaient offerts pour les sacrifices. Et les pères de l'Église disent, mais qu'en est-il de notre âme, dans lequel souvent nous vendons des choses qui n'ont rien à voir avec le sacrifice que nous sommes supposés offrir à notre Seigneur Jésus-Christ, sacrifice d'adoration. Et donc, si notre Seigneur Jésus-Christ a pris un fouet de corde pour chasser tout le monde hors du temple, n'aurait-il pas encore plus de droit d'être encore plus violent d'une certaine façon avec nous, parce que nous sommes rentrés dans le temple de notre âme, nous sommes rentrés des choses, des éléments, des personnes qui n'ont rien à voir là-dedans? Est-ce que nous aussi, nous ne transformons pas par le péché notre âme en une caverne de voleurs? C'est exactement ça. Le démon est un voleur. Le démon cherche à rentrer dans mon âme pour en la détruire complètement, la salir, faire un cloaque d'impureté. Posons-nous cette question, dans quel état, encore une fois, dans quel état est mon âme? Et dire, monsieur l'abbé, c'est un peu décourageant tout ce que vous dites. Alors, il faut s'encourager avec l'épître. L'épître de Saint Paul, Corinthiens. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit que Dieu est tout-puissant. Elle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Très important ce qu'il dit. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. C'est avec la tentation qu'il permet, il nous donnera toujours les forces pour que nous puissions sortir de la tentation. Il y a deux sortes de tentations. Les tentations qui sont les tentations d'épreuve, permises par le bon Dieu, et les tentations de séduction qui sont directement voulues par le démon, permises par le démon. Pas permis par le démon, voulu, effectué par le démon. Donc le démon, le bon Dieu, permet, comme il a permis que le saint homme Job dans l'Ancien Testament soit perdre tout ce qu'il avait. De la même façon, le bon Dieu permet que les soldats que nous sommes les soldats de notre Seigneur Jésus-Christ, il permet que ces soldats soient tentés. C'est en temps de guerre qu'on voit où sont les beaux soldats. En temps de paix, c'est facile d'être un bon soldat, il n'y a pas de problème. Donc le bon Dieu permet justement, en temps de guerre, nous sommes en guerre. En guerre spirituelle, le bon Dieu permet que nous soyons en guerre pour justement voir où sont les bons soldats. C'est en période de guerre qu'on voit où sont les bons soldats. Et rappelez-vous aussi, encore une fois, ce que disent les pères, les phrases des pères qui me marquent complètement, une des phrases des pères qui me marquent le plus, c'est des pères qui expliquent que le bon Dieu a plus d'amour pour un soldat qui tombe souvent, qui se relève à chaque fois, que pour un soldat qui tombe jamais. C'est incroyable. On pourrait croire que le bon Dieu a un amour tout particulier pour les soldats qui sont parfaitement fidèles, qui ne tombent jamais. Non, le bon Dieu a plus d'amour pour un soldat qui tombe souvent, qui se relève à chaque fois. Parce que le soldat qui tombe souvent, mais qui se relève à chaque fois, est justement un soldat qui a beaucoup plus de mérite, parce que justement, il a ce fil à la patte, ces péchés que nous avons tous, malheureusement, et qui nous poussent à tomber. Alors, la méditation de ces deux textes magnifiques que l'Église a choisis aujourd'hui pour ce 9e dimanche après la Pentecôte, justement, doivent nous rappeler une vérité essentielle, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ, même s'il permet, dans sa justice, dans sa miséricorde, que nous soyons tentés, il est plus fort que le démon, attention. Il est plus fort que le démon. Il va nous rappeler aussi d'autres choses. J'ai repéré ici certaines phrases. Un autre reproche que notre Seigneur Jésus-Christ va faire aux Juifs, il nous l'a fait aussi à nous, non, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ça, c'est pour reprocher justement aux Juifs qui viennent après des millénaires d'annonces de l'arrivée du Messie. Le Messie arrive finalement et au lieu de l'accueillir, il le crucifie. Donc, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Donc, j'arrive pour sauver mon peuple, transformer l'Ancien Testament en Nouveau Testament, au lieu de m'accueillir, mon peuple va me crucifier. Mais cette phrase ne s'adresse pas simplement qu'aux Juifs. Cette phrase s'adresse aussi à chacun d'entre nous. Le bon Dieu nous dit exactement la même chose. Est-ce que tu as connu le temps où tu as été visité? Nous avons tous été visités d'une certaine façon. D'abord par le baptême. grâce extraordinaire que Dieu ne donne pas à tout le monde. Et puis dans notre vie, chacun connaît sa vie passée, dans la vie de tous les jours, nous avons eu dans le passé des grâces spéciales que le bon Dieu nous a données, que sans doute il n'a pas données à d'autres personnes. De même que d'autres personnes ont reçu certaines grâces que moi j'ai perçues. Le bon Dieu donne ses grâces en fonction des besoins, c'est ce qu'il dit dans l'Épître, qu'on ne sera jamais tenté au-delà de nos forces. Les tentations sont différentes pour chaque personne, donc Dieu donne des grâces qui sont différentes pour chaque personne. Donc, est-ce que j'étais fidèle à ces grâces? Est-ce que j'étais fidèle aux grâces de lumière que le bon Dieu m'a données, ces grâces de conversion que le bon Dieu m'a données, ces grâces que d'autres personnes autour de moi peut-être ne recevront jamais? Est-ce que j'étais fidèle à tout cela? Et une dernière phrase qui m'a frappé. Si à la fin, notre Seigneur nous dit, si tu connaissais ce qui peut te procurer la paix. Les gens d'aujourd'hui parlent toujours de paix, d'être en paix avec tout le monde, pareil. On n'a jamais eu tant de guerre dans le monde moderne, mais ils veulent être en paix avec tout le monde. Alors les gens essaient de trouver des choses qui vont leur donner la paix. Ils croient qu'ils peuvent avoir la paix avec l'argent, avec le pouvoir, avec les choses matérielles, avec toutes ces erreurs modernes. Ils croient qu'ils peuvent avoir la paix avec la liberté, avec l'égalité, avec la fraternité, avec toutes ces bêtises. Ils ne trouvent jamais la paix. Qu'est-ce qu'ils trouvent? La guerre. La guerre. Eh bien, qu'est-ce qui peut nous apporter la paix? La seule façon d'avoir la paix, c'est d'avoir la paix intérieure. La paix, ce n'est pas l'absence de conflits armés. La paix, c'est justement la tranquillité de l'ordre. C'est la définition de saint Thomas d'Aquin. Tranquillité de l'ordre. Si mon âme est en paix avec elle-même, elle sera en paix avec le bon Dieu. Donc, la seule chose qui peut vraiment me donner la paix, et une paix durable, c'est justement la grâce sanctifiante. Si je suis en état de grâce, si mon âme est en paix avec notre Seigneur Jésus-Christ, si mon âme est en paix avec son Créateur et son Rédempteur, alors à ce moment-là, j'aurai cette tranquillité de l'ordre en moi et j'arriverai à vaincre les conséquences du péché originel. Si au contraire je ne suis pas en état de grâce, le démon sera maître de mon âme et lorsque le démon rentre dans une âme, qu'est-ce qu'il fait? Il met la pagaille, il met le désordre, il met la révolte. Donc si je suis en état de révolte, un état de révolte, la destruction de la ville de Jérusalem représente cette révolte. Si mon âme est en état de révolte, j'ai quelqu'un dans mon âme qui hurle tout le temps, je ne servirai pas. Et je suis cette personne. Je suis le démon qui me dit, je ne servirai pas, moi aussi je refuse de servir. Au contraire, si j'ai notre Seigneur Jésus-Christ qui est roi de mon âme, le démon ne peut pas rentrer. Le démon ne peut pas rentrer dans une âme qui est possédée par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est impossible. De la même façon que notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas rentrer dans une âme qui est possédée par le démon. Il y en a deux qui doivent sortir. Eh bien, si notre Seigneur Jésus-Christ est dans mon âme, à ce moment-là, au lieu d'avoir ce cri de révolte, je ne servirai pas, je vais répéter la parole de Notre-Dame, je suis la servante du Seigneur. Qu'il en soit fait en moi, selon votre parole. Et on voit tout ça très bien dans le monde moderne. Les gens du monde moderne essaient de trouver la paix. Ils pensent que puis ils vont avoir d'argent dans leur compte en banque, puis ils auront la paix. Et puis on se rend très bien compte que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. La seule personne qui peut me donner une paix durable, une paix qui soit intérieure, une paix qui tranquillise, qui remette justement l'ordre dans mon âme, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes bien chers frères, demandons à la très sainte Vierge Marie, elle qui a conservé cette paix de façon extraordinaire, parce qu'elle est une qui avait la tranquillité de l'ordre dans son âme, c'était justement elle. Même au Vendredi Saint, alors qu'elle voyait les tortures épouvantables contre son divin Fils, elle était en paix, parce qu'elle savait que la volonté du bon Dieu, la volonté de son Fils était en train de se réaliser, que son Fils était venu non pas pour vivre, son Fils était venu pour mourir. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité, avait pris une nature humaine, il a pris une nature humaine pour justement pouvoir mourir. Et que par cette mort, au moment précis, humainement parlant, tout était entre les mains du démon, à cet instant précis du Vendredi Saint, au moment de la mort de son divin Fils, eh bien, c'était les portes de la mort, les portes du paradis plutôt, qui étaient rouvertes de nouveau. Alors demandons cette grande dévotion à la Sainte Vierge Marie. Cette semaine qui arrive, nous avons la grande fête du 15 août, qui doit être en plus très chère au cœur des Français, parce que la fête du 15 août, c'est la fête nationale du pays, strictement parlant. Hein. 14 juillet, c'est la fête de la Révolution. Le 15 août, c'est la fête des catholiques. La grande fête des catholiques. Alors nous renouvellerons, en ce 15 août, selon la demande du roi Louis XIII, nous renouvellerons la consécration de la France. L'acte de consécration de la France à la Sainte Vierge Marie. Et il faut demander, justement, cette semaine, avec cette arrivée, cette belle fête du 15 août, demander la grâce de ne jamais perdre l'espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Et si on regarde les choses en France avec un regard purement humain, on se tire une balle dans la tête, etc., on n'a plus rien à faire. Hein. Il faut savoir regarder les choses avec un regard divin. Hein. C'est ce que disait, c'est Saint Athanase qui disait ça à son troupeau. Alexandrie disait, ils ont les bâtiments, nous avons la foi. Au 4e siècle, il disait ça. Les Ariens étaient partout, ils ont pris toutes les églises. Lui-même était obligé de s'enfuir dans le désert, il vivait dans un tombeau. Dans le désert, on lui apportait quelque chose à manger pour qu'il ne meure pas de faim. Et il disait à son peuple, ils ont les bâtiments, nous avons la foi. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Ils ont les bâtiments. On a l'impression que ben, les ennemis de l'Église, l'Église de Vatican II, toutes ces horreurs, ils sont partout, 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 partout. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont les bâtiments, nous avons la foi. Quelque chose qu'ils ne peuvent pas détruire, ils ne peuvent pas détruire notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est Dieu, et ils ne peuvent pas détruire une âme en état de grâce. Le démon peut nous tenter, le démon peut tourner autour de l'âme comme un lion dévorant, cherchant qui dévorer, comme dit Saint Pierre, mais le démon ne peut pas détruire une âme en état de grâce. Nos ennemis ont pouvoir sur nos corps, ils n'ont pas pouvoir sur nos âmes. Donc c'est à nous de protéger justement l'entrée de nos âmes, de barricader la maison en quelque sorte, de telle façon que notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours à l'intérieur et que le démon, lui, soit toujours à l'extérieur. Alors, passons par notre Sainte Vierge Marie et demandons-lui cette grâce de savoir toujours rester avec elle dans la maison. Il ne faut pas simplement qu'il y ait notre Seigneur Jésus-Christ dans la maison, il faut qu'il y ait sa mère aussi. Là où il y a le Fils, il y a la mère. Là où il y a la mère, il y a le Fils. N'oublions pas le conseil de notre Seigneur justement de mourir. Hein? Fils, voici ta mère. Mère, voici ton Fils. Nous sommes les enfants du bon Dieu, donc étant les enfants du bon Dieu, ben, nous sommes aussi les enfants de la Très Sainte Vierge Marie, parce qu'elle est mère du corps mystique. Nous demandons à la Très Sainte Vierge Marie, justement, ces grâces insignes que notre Seigneur Jésus-Christ a préparées pour tous ceux qu'il aime et qu'il va nous donner par l'intermédiaire de cette Très Sainte Mère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.